Face à l'info sur la première.
Face à l'info et cette question ce soir, sommes-nous proches de l'extinction de l'humanité? Vous la posez, Eddie, avec votre invité Paul Jorion qui publie un essai intitulé comme suit « Le dernier qui s'en va éteint la lumière ».
Lumière, c'est un mot que l'on évoque beaucoup ces temps-ci. On aspire, paraît-il, aux lumières, à un retour des lumières, à une persistance des lumières. Et pourtant, jamais autant de paramètres et de paradigmes n'ont été amenés qui faussent ces raisonnements. On va essayer de comprendre avec Paul Jorion ce qu'il reste ou nous reste à faire, et s'il en reste, les possibilités d'espoir et de réaction. Paul Jorion, je vous le rappelle, est à la fois anthropologue, mais surtout aussi un chercheur spécialisé dans notamment l'intelligence artificielle, et puis un de ceux qui avaient vu venir la crise des subprimes avant beaucoup d'autres.
Soir première,
face à l'info.
Bonsoir Paul Jorion.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté cette invitation et d'être face à l'info. Alors, le dernier qui s'en va éteint la lumière. Un jour, bien sûr, on peut se dire de manière fataliste que quand le soleil ne brillera plus, et c'est programmable, il y aura bien effectivement une extinction de la lumière. Mais vous nous dites, bien avant cela, par les paradigmes qui sont occupés à changer et sur lesquels l'homme agit, on pourrait éteindre ou être condamné à éteindre la lumière plus vite que prévu.
Oui, parce qu'il y a des physiciens, il y a des climatologues, il y a des chimistes qui nous disent que nous sommes vraiment très très mal embarqués. Mais aussi, nous voyons bien que la complexité du monde dans lequel nous vivons est en train de nous échapper, nous confions de plus en plus à l'ordinateur, au robot, au logiciel, le soin de résoudre nos problèmes. Et par ailleurs, en arrière-plan et depuis 2008, nous avons un système financier et en partie économique dont nous n'avons plus véritablement la maîtrise. On veut la croissance, on n'arrive pas à l'obtenir, on veut de l'inflation. On ne sait pas comment il faudrait faire. On emploie ce qu'on appelle des mesures non conventionnelles. Et non conventionnelles, on pourrait traduire ça en français, ça veut dire désespéré.
J'ai lu attentivement, comme je le fais régulièrement, votre blog. Et à propos de ce livre, vous avez invité, comme vous le faites, des notes de lecture d'un certain nombre de lecteurs privilégiés. Je cite ici un compte à rebours par Roberto Boulan. Et en 10, il dit « Nos voix ont cessé d'être entendues pour faire court parce qu'il n'y a qu'une seule politique possible, c'est celle de la science économique ». 9. La science, entre guillemets, économique est tout entière au service d'un pouvoir économique extraordinairement concentré. Et vous dites 8. La machine infernale fonctionne sur deux temps, concentration des richesses et escamotage dans les havres fiscaux. Avec les temps qui courent et les Panama Papers, on a l'impression évidemment qu'on est au cœur du système.
Oui, parce qu'en fait, j'ai essayé d'examiner de manière un peu systématique tout ce qui ne marche pas, tout ce qu'on pourrait faire justement pour remettre les choses en marche. Et bien entendu, quand on parle de Panama Papers, eh bien, on va voir dans mon livre et on s'appelle bon, je ne parle pas des choses avant qu'elles se produisent, mais enfin, parmi les choses qui ne fonctionnent pas bien, il y a effectivement cette organisation de paradis fiscaux, peut-être de havres fiscaux, comme il faudrait dire. C'est un système qui pompe un petit peu l'énergie des sociétés, alors qu'on aurait bien besoin d'utiliser toute l'énergie dont on peut disposer maintenant. Il y a une partie qui est divertie des flux économiques qui partent vers ailleurs, et il faudrait bien essayer de les faire rentrer. Et c'est un peu à ça que servent les révélations comme on a ces jours-ci. C'est peut-être à faire revenir des ressources à la disposition des États qui ne viennent plus par de la croissance.
Vous êtes un des rares à avoir tiré par écrit les sonnettes d'alarme sur ce qui allait s'annoncer être l'une des crises majeures de ce siècle depuis 2008. Qu'est-ce qui a fait que vous avez vu ce que d'autres s'ingéniaient à ne pas voir?
Les philosophes ont attiré notre attention sur le fait que, en général, sur l'avenir, on peut rien dire de vraiment très, très certain. Les événements sont contingents, comme on dit. Donc, on peut pas dire ce qui va se passer. Mais on a oublié une chose, c'est qu'on peut quand même parler de l'avenir. Quand quelque chose est impossible, on peut dire que ça n'adviendra pas. Mais quand c'est nécessaire, quand ça apparaît qu'il y a des lignes de causalité qui conduisent nécessairement la situation où on est à un aboutissement prochain, à ce moment-là, on peut en parler. Et c'est un petit peu ça que j'avais essayé de faire dans le cas des subprimes. Je me trouvais pas loin du centre de ce qui se passait là-bas. Et il m'a semblé qu'il y avait une ligne nécessaire entre la situation où on était et une crise majeure qui serait liée justement aux subprimes. Alors c'est un petit peu la même chose dans le cas de ce livre-ci. Il me semble maintenant qu'il y a une ligne de causalité bien claire entre ce que nous faisons maintenant, ou plutôt ce que nous devrions faire et que nous ne faisons pas, et une extinction possible. Et nous avons toutes les raisons de croire ce que nous disent les physiciens, les chimistes, les climatologues, c'est-à-dire que c'est une question de 2 ou 3 générations, 60 ou 90 ans, de prendre les décisions qu'il faut.
On continue le décompte, on en était à 8. 7, son logiciel de commande est financier, il ne fonctionne qu'en mode court-termisme, demain n'existe pas, seul compte le profit immédiat, celui qui est la raison des normes comptables. On le voit, on voit que pendant la crise, les affaires continuent, si j'ose dire, les dividendes n'ont jamais été aussi forts. Alors, Il y a ceux qui titrent ces jours-ci en disant « L'an dernier, 18 milliards de profits pour les entreprises cotées à la Bourse de Bruxelles ». Certains disent « Mais de quoi vous plaignez-vous ? Il faudrait bien quand même que les affaires tournent et vous n'allez quand même pas nous reprocher qu'elles tournent ». D'autres disent « Oui, mais elles profitent à qui ?»
Oui, c'est ça. Mais nous le disons, comment fonctionnent nos sociétés ? Eh bien, c'est inscrit dans la Constitution et puis dans les lois qui ne sont pas en contradiction avec la Constitution. Mais il y a une chose que nous ne voyons pas du tout, c'est qu'il y a un cadre qui se trouve tout autour de ça. Et ce cadre, c'est un petit peu inattendu, mais une fois qu'on y pense, on se rend compte que c'est bien comme ça. Les règles comptables définissent le monde dans lequel nous sommes. Et déjà Keynes, à son époque, dans les années 30, a tiré là-dessus et il disait nous avons un système économique qui est le cauchemar d'un comptable. Et c'est vrai, parce qu'il y a toute une représentation du monde qui est là, je dirais, encapsulée. D'abord, le fait que nous puisons les ressources de la nature et que nous ne tenons pas, absolument pas compte de ça dans les calculs que nous faisons. Et puis, dans le fait que dans la redistribution de la richesse, il y a un certain nombre de principes qui sont inscrits là, qui n'ont jamais été votés par personne. Personne ne les a jamais approuvés. Et c'est dire des choses comme le fait que l'apport en travail dans le fonctionnement d'une entreprise, c'est un coût pour l'entreprise. C'est comme ça que c'est fini de manière comptable et que par opposition à ça, les dividendes des actionnaires, les bonus des dirigeants d'entreprise, le fait qu'on multiplie les salaires parfois pour les dirigeants d'entreprise de manière tout à fait extravagante, tout ça, ce sont des parts de profit. Or, tout le monde sait que les coûts, il faut les faire baisser et les parts de profit, il faut les faire augmenter. Mais qui est-ce qui a jamais dit ça ? C'est une définition, c'est une pure définition. Le fait que nous acceptions ça sans le discuter, ben, je dirais, on est un petit peu coupable. Ça ne va pas de soi. Et en particulier, au début du 19e siècle, dans ce qu'on appelait à l'époque, un peu ce que Marx et Engels ont appelé le socialisme utopique, on posait ces questions. Pourquoi est-ce que l'un est considéré comme quelque chose qu'il faut faire baisser ? Et on le sait, quand les dirigeants d'entreprise maintenant suppriment des emplois, eh bien, en général, ils obtiennent un bonus supplémentaire. Pourquoi est-ce que nous avons inscrit ces principes-là sans jamais même les discuter ?
6. L'État-providence est subordonné à la croissance. Si toutefois il en reste suffisamment une fois les intérêts payés. Est-ce que aujourd'hui le mot croissance a encore du sens selon vous ? Est-ce que l'État-providence est encore significatif ?
Voilà, bon, ça c'est le mérite, je dirais vraiment, du livre de Thomas Piketty, le capitalisme au XXIe siècle, c'est de montrer que dans nos sociétés, et depuis pas mal de temps, on distribue en dividendes, en intérêts qui sont payés, on distribue des sommes plus importantes que la croissance qui a eu lieu. Et bien entendu, pour pouvoir le faire, il faut aller prendre l'argent quelque part. C'est un principe aussi dont il faudrait tenir compte. Moi, j'ai écrit un livre précédemment sur Keynes où j'attirais l'attention là-dessus. Effectivement, on ne peut pas distribuer, en croissance, davantage que ce qui est produit. Mais la chose à laquelle nous n'avons pas pensé, c'est parce que dans les années 50, parce qu'il y avait reconstruction, il y avait, un travail énorme, il y avait de l'argent qui était injecté par les États-Unis sous forme du plan Marshall, nous avons fait dépendre les dépenses de l'État-providence de cette croissance qui était là. Et on a oublié que cette croissance n'existerait pas toujours et qu'en fait, en particulier, elle était liée à la reconstruction. Et du coup, quand la croissance n'est pas là, on dit on n'a plus d'argent pour l'État-providence. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'au niveau du public, les citoyens de notre pays, ils tiennent à l'État-providence. Ils considèrent pas que c'est quelque chose dont on peut supprimer l'existence comme ça rapidement en disant, vous savez, il n'y a pas de croissance, donc on ne peut pas le faire. Donc les États sont obligés évidemment d'avoir des rentrées supplémentaires et c'est ça qui les conduit d'avoir une attitude, je dirais, un peu moins généreuse qu'autrefois vers les gens qui faisaient de l'évasion fiscale ou de l'optimisation fiscale, comme ces gens-là ont l'habitude de dire.
Est-ce que pour autant cet État-providence, cette sécurité sociale, notamment en face du vieillissement, nous serons plus nombreux et nombreux demain à vouloir bénéficier d'un temps de retraite financé, est-ce que tout cela peut encore résister ou est-ce qu'il va falloir que chacun invente son capital débrouille ?
Oui, mais non, là, on a tendance à essayer de prendre le problème comme si c'était un problème individuel. Non, c'est pas un problème individuel de payer des pensions aux gens. C'est pas quelque chose que les gens devraient pouvoir résoudre. C'est comme maintenant, on licencie les gens et on dit retrouver du travail dans un horizon où le travail disparaît parce qu'il y a robotisation, remplacement avec du logiciel. On peut pas dire aux gens simplement, essayez de vous constituer une pension. Et comment le ferait-on alors? Dans un univers où les taux d'intérêt sont négatifs, où les marchés boursiers sont tout à fait à la merci d'une bulle financière qui pourrait éclater demain. Moi, j'ai vu ça aux États-Unis. Non, il faut des solutions collectives à des problèmes qui sont collectifs. C'est une illusion, ça, c'est l'illusion vraiment des années 70 à 2008, l'ultralibéralisme absolu, c'est que les marchés allaient produire une manne et que ce serait distribué de manière égalitaire. Ce n'est absolument pas le cas. Il faut penser au fait que le travail disparaît, il faut penser au fait que ce que le robot ou le logiciel crée comme richesse, ça ne va plus à des êtres humains qui ont été remplacés par cette machine. Ça va directement en dividendes aux actionnaires, ça va directement à payer des salaires extravagants à certaines personnes. Alors il faut penser à ça, et de la même manière qu'on taxait le travail des êtres humains pour faire marcher la machine de l'État-providence, de la même manière, il faut taxer le travail des machines. Et en plus, elles ne se plaindront pas, donc c'est vraiment très avantageux.
On va revenir d'ailleurs dans la deuxième partie de notre émission sur cet aspect particulier aussi de l'avancée hyper rapide de l'intelligence artificielle, et nous reprendrons dans un instant avec vous ce compte à rebours qui, dans le pire des cas, arriverait à zéro.
Soir première, Face à l'info.
Suite de cette rencontre avec votre invité, Eddy Cackelberg, il s'appelle Paul Jorion, on le rappelle, et il vient de publier cet essai, Le dernier qui s'en va éteint la lumière.
En deuxième partie de l'émission, je voudrais qu'on reprenne le compte à rebours là où on l'avait laissé. Paul Jorion à 5. L'ultralibéralisme, dit votre blogueur invité, l'ultralibéralisme est la négation de toute dignité, toute chose a un prix, y compris la fin de l'espèce. Alors si l'on comprend bien, sans doute, et vous allez nous en dire un mot, ce que l'on veut pointer par ultralibéralisme, je ferai une comparaison audacieuse. D'aucuns disent, quand on parle d'islamisme qui ne serait pas une vraie partie de l'islam, c'est se voiler la face. Est-ce que donc, ma question serait, est-ce qu'il y a un véritable libéralisme possible qui ne débouche pas d'office sur l'ultra ?
Mais non, parce que la question posée par le libéralisme à partir du XVIIIe siècle, c'était une excellente question. C'était de dire, voilà, il y a des grands États qui apparaissent, ce sont des États souverains, ils ont un appareil d'État, il y a une justice, il y a un système de prison, il y a une police, etc. Que doit-on faire en termes de régulation, de réglementation de la population? Où doit-on mettre la barre? Où est-ce qu'il faut laisser une vie privée aux individus? Et où est-ce qu'il faut que l'action de l'État s'arrête? Pour laisser à l'individu le sentiment d'être heureux. Et donc la question qui était posée, elle était très bonne. Quelle quantité de pouvoir d'État faut-il dans nos vies? Mais alors, qu'est-ce que c'est l'ultralibéralisme? C'est de dire il faut pas d'État du tout, sauf pour une chose, pour défendre les intérêts des plus nantis. On me dit, oui, il y a deux courants dans l'ultralibéralisme. Il y a ceux qui sont pour l'État et ceux qui sont contre. Non, ce n'est pas vrai. À l'intérieur de ce système, il y a une représentation. L'État doit avoir pour seul rôle de défendre les intérêts de ceux qui sont une sorte d'aristocratie de l'argent. Et l'État doit être entièrement à leur service. Et pour le reste, l'État ne doit pas exister. Donc, il y a un passage, mais qui est un passage, je dirais, de valeurs démocratiques qui sont inhérentes au libéralisme, à une autre représentation qui est celle de l'ultralibéralisme. Libéralisme qui n'est pas démocratique. Il suffit de penser aux gens qui ont introduit ce système, qui ont développé cette idéologie, des gens comme M. von Hayek ou des gens comme M. Milton Friedman. Il ne faut pas oublier que ce sont des gens qui sont allés se mettre au service de M. Pinochet quand il avait une dictature au Chili, sans que lui ait jamais rien demandé. Et M. von Hayek a été interviewé au Chili sous Pinochet et il a dit la chose suivante qu'il n'a absolument jamais démenti et donc il l'a probablement dite, c'est de dire entre une démocratie mais qui n'est pas libéral et un système libéral qui n'est pas démocratique, je préfère le système libéral qui n'est pas démocratique. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui n'était pas attaché à la démocratie. Et c'est un peu ce dont on s'aperçoit maintenant. Quand on laisse l'ultralibéralisme décider de la manière dont fonctionne une démocratie, ce qu'on voit apparaître, c'est qu'on passe vers un système qu'on appelait autrefois un système censitaire. C'est-à-dire que le pouvoir que vous avez dans la société dépend exactement de la quantité d'argent dont vous disposez.
Lorsque un certain nombre de forces traditionnelles de gauche, et on songe notamment à un certain nombre de partis qui se disent sociodémocrates ou socialistes, disent qu'ils ont pour mission d'être un effet correcteur au sein d'une société libérale, que dire alors de leur propre pensée? Ma deuxième question, y a-t-il, depuis la chute du mur, depuis la chute des régimes dits communistes ou socialistes avancés, est-ce qu'il y a une autre formule idéologique qui voit le jour et qui prennent le contre-pied de cet ultralibéralisme.
Oui, c'est ça le problème en termes d'avoir une utopie, quelque chose vers lequel on voudrait aller. Parce qu'une utopie, évidemment, c'est quelque chose qui n'existe pas, mais qu'on voudrait voir se réaliser. Alors, à l'époque du communisme soviétique, effectivement, il y avait un autre système. C'était un système qui avait des défauts tout à fait considérables, en particulier, justement, que la liberté de l'individu était réduite à pratiquement pas grand-chose. Il y avait des choses qui n'étaient pas comprises par ce système. Il était extrêmement, je dirais, dirigiste et autoritaire en matière économique. Il ne voyait pas du tout qu'il y avait aussi quand même la possibilité pour un peu laisser la main invisible d'Adam Smith d'avoir un petit peu d'action. Et donc, quand ce système s'est effondré sous son propre poids, mais aussi, il faut bien dire quand même, d'avoir été un peu poussé comme un petit dumpty, il a été quand même un petit peu poussé du haut du mur, et dans ce cas-là, c'était le mur de Berlin. Non, pour le moment, il n'y a pas de représentation alternative. Il faut aller chercher, je dirais, dans les idées généreuses, et vous parliez de l'Europe des Lumières, oui, de ce côté-là, du côté des Lumières, et aussi de cette pensée socialiste dont Marx et Engels se moquaient en les appelant précisément des socialistes utopiques. Mais là, il y avait énormément, je dirais, d'idées qui doivent vraiment revenir à la mode sur la manière dont nous devons réfléchir. Par exemple, on pense rarement au fait, par exemple, qu'Ernest Solvay était un penseur anarchiste et qu'elle avait introduit dans ses entreprises la disparition de l'argent, c'est-à-dire la gratuité à l'intérieur même de ces entreprises. Il y a des solutions comme celle-là. La gratuité, c'est un remède à beaucoup de difficultés qui se posent à nous aujourd'hui. Il y a des gens qui essaient de modifier l'argent, de créer de l'argent, de la monnaie fondante ou des monnaies parallèles, etc. Il y a une autre solution, c'est la gratuité. C'est la gratuité sur beaucoup des choses. On pourrait introduire la gratuité sur les choses qui sont absolument indispensables dans notre vie quotidienne.
Au point 4, on en est aux générations futures qui hériteront d'un monde dévasté et, dit votre interlocuteur, c'est leur problème. Est-ce que la COP21 est venue calmer ces choses ou c'est un leurre ?
Non, malheureusement, on a vu, c'est pas la première fois qu'on essaie de prendre des mesures dans du côté de l'environnement. Et il y a eu l'accord de Kyoto il y a quelques années, mais on s'est aperçu que depuis qu'on a pris des grandes décisions là sur comment il fallait réduire les émissions de carbone, en fait, je crois qu'elles ont encore augmenté de 60%. C'est-à-dire que même quand nous prenons des décisions, même quand nous essayons véritablement de les appliquer, nous ne sommes pas encore très bien équipés pour les mettre en pratique. Toutes ces grandes décisions sur des choses qu'il faudra faire d'ici 2027, etc. Tout ça va beaucoup trop lentement. Et surtout, tout ça est encore fait dans une perspective de sauver la planète à condition de pouvoir en tirer un profit commercial. Sauver la planète, sauver notre espèce à la surface de la planète, ce n'est pas quelque chose qu'on pourra faire, il faut bien le dire, dans la perspective d'encore gagner de l'argent là-dessus. C'est un problème beaucoup trop sérieux.
Alors au point 3, au moment 3, on est à la crise financière, crise environnementale, crise de la complexité qui mêlée risque de faire complètement tanguer les skiffs. Et au 2, l'intelligence artificielle arrive, de père inconnu, dit-il, sa maman s'appelle l'armée.
Oui.
C'est vrai que l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est galopante et personne dans les enceintes politiques n'en parle ou n'en mesure les avancées structurelles.
Non, il faut penser, c'est vraiment aux philosophes pour soulever ces questions. La question la plus importante, elle est bien symbolisée par Monsieur Ning, qui était un grand chercheur à Stanford, d'origine chinoise. Il s'est rendu, c'est l'année passée, il s'est rendu en Chine, il a quitté les États-Unis et il va lancer une grande entreprise d'intelligence artificielle dont il dit qu'elle doit être à l'échelle du projet du projet Saturne aux États-Unis, mais ça va se faire sous l'égide de l'armée rouge chinoise. Et moi, c'est une expérience qui me rappelle l'époque où je travaillais dans ce domaine de l'intelligence artificielle. C'était la fin des années 80 et un jour, on nous appelle à l'équipe de British Telecom et on nous dit, on est obligé de reconnaître devant vous qu'en fait, vous n'avez jamais travaillé pour nous, vous travaillez en réalité pour le ministère de la Défense et c'est parce que c'est la fin de la guerre froide et que les budgets sont en baisse qu'on est obligé de vous le dire. Ça fait longtemps, en fait, que la plupart des fonds pour l'intelligence artificielle de manière donc directe ou de manière implicite vient en réalité du militaire.
Oui, tout comme d'ailleurs l'actuel web et internet venait de l'ARPANET qui était effectivement une invention strictement militaire.
Tout à fait, on apprend encore aux enfants des écoles que les grandes découvertes médicales se font en général dans l'urgence justement des guerres.
Sans vouloir évidemment jouer à l'aspect trop catastrophiste, mais cette intelligence artificielle dont on sait combien elle va devenir co-symbiotique, et j'utilise le mot en me souvenant de Joël de Ronet qui a inventé le concept d'homme symbiotique,
hein, oui, oui.
Elle va devenir co-symbiotique de l'homme, c'est un progrès ou c'est un risque pour l'espèce ?
C'est les deux. C'est la même chose que l'argent, c'est la même chose que la finance. Ça dépend du contrôle, de la maîtrise qu'on a, et surtout, à mon sens, de le placer dans le cadre d'une éthique. Le problème qu'on a eu essentiellement avec la finance, c'est que depuis deux siècles, on a dit qu'il n'est pas nécessaire de placer ça dans le cadre d'une éthique. Ça a sa propre rationalité. Alors, quand on nous parle maintenant de système de munitions autonomes, alors on comprend tout de suite de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est un système de munitions? C'est quelque chose qui va tirer autonome, c'est-à-dire que ça va prendre ses propres décisions sur le moment de tirer et sur quoi. Alors là, bien sûr, il y a un danger. Tout le monde voit l'image du film Terminator, de voir des machines en guerre contre nous. Mais la difficulté que nous avons, c'est que le contrôle que nous avons sur les choses, finalement, quand quelque chose est vendable, on ne se pose pas tellement la question du contrôle qu'on peut en avoir ou qu'on ne peut pas en avoir. Ceci dit, il est bien possible, là, il y a des gens, je dirais, très intéressants, comme M. Martin Rees, l'astronome royal britannique, c'est-à-dire vraiment une personnalité dans le domaine de l'astronomie, qui nous dit, eh bien, il se fait que nos espèces, les contraintes sur une espèce comme la nôtre, de devoir ingérer de l'oxygène toutes les 5 ou 10 secondes, de devoir boire de l'eau toutes les heures, etc., ce sont des contraintes tout à fait extraordinaires, et un progrès pour nous, ce serait de nous remplacer nous-mêmes par des choses qui n'auront pas besoin d'accéder à l'oxygène toutes les 5 secondes, parce que imaginez un robot sur la planète Mars, et il y en a un qui est en train de se déplacer là, il le fait très 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 bien dans un environnement où il n'y a pas ces contraintes de trouver de l'eau ou de trouver de l'oxygène.
On nous annonçait d'ailleurs tout à fait aujourd'hui la mise au point maintenant formelle d'un ordinateur dont la capacité de penser est en termes de milliards par seconde de données injectées. On nous annonce, certains nous annoncent, on le sait au cœur même de Google, que dans 30 ans maximum, on aura un ordinateur dont la taille sera suffisante que pour y déposer le contenu d'un cerveau humain.
Oui. Mais vous savez, il y a quelque chose de très frappant. L'année passée, au mois de juin, dans la revue Wired, qui s'occupe vraiment de toutes ces questions justement liées à l'informatique, il y avait encore un article important qui nous disait le jeu de Go. Dans le jeu de Go, eh bien, il faudra encore un grand nombre d'années avant que la machine fonctionne mieux que l'humain. Pourquoi ? Parce qu'il y a un très très grand nombre de possibilités que même l'ordinateur ne peut pas calculer. Il faut une intelligence de type intuitif pour comprendre comment ça marche. Or, en mars, c'est-à-dire même pas une année plus tard, des grands champions de Go ont été battus maintenant par la machine. On nous parle de quelque chose qu'on appelle la singularité, qui est le moment où les ordinateurs seront plus intelligents que nous sur la plupart des choses que nous faisons, ou même la quasi-totalité. Et quand on me demande quand ça va avoir lieu, à mon avis, si c'est 2020, 2030, moi je réponds toujours 2013. C'est une boutade, mais c'est pour attirer l'attention sur le fait que ça a peut-être déjà eu lieu.
Au décompte, nous en étions à 1, la démocratie est enchaînée. Quand on arrive à 0, votre interlocuteur a eu la prudence de mettre un point d'interrogation. Il dit pas encore, pas tout à fait. Il nous reste l'équivalent de 2, peut-être 3 générations pour réagir et tenter d'éviter la tragédie. Mais la prise de conscience, la projection d'une utopie, ça prend plus que 2 générations.
À moins qu'il y ait une prise de conscience très très rapide, et c'est pas impossible. Moi, je crois quand même notre espèce a une difficulté, c'est-à-dire que se représenter l'extinction, c'est quelque chose. Se représenter un événement qui n'a pas encore eu lieu jamais, c'est vraiment très très difficile parce que nous associons la peur ou la joie à des choses que nous connaissons déjà, mais des choses qui n'ont jamais eu lieu, c'est très difficile. Mais ça ne veut pas dire que devant l'obstacle et vraiment la grande difficulté, qu'il n'y ait pas une prise de conscience. D'autant que la communication entre nous parle. Internet a été démultiplié par rapport à ce que c'était autrefois. Quelqu'un qui écrit des livres, il peut écrire maintenant un livre en 4 mois alors qu'il aurait dû consacrer 4 années à le faire. L'information circule de manière immédiate. Il y a les choses qu'on appelle virales. C'est le fait qu'une information peut aller très très vite maintenant et peut être... Et de la même manière, j'ai l'impression qu'une prise de conscience de la situation dans laquelle on est, elle peut avoir lieu de manière immédiate. Je ne pense pas qu'il y a quelques années, mon livre serait épuisé en quelques jours, mais simplement c'est parce que maintenant la communication entre les gens qui le lisent et qui disent à d'autres qu'il faudrait le lire se fait de manière quasi instantanée.
Merci Paul Jorion en tout cas d'être venu nous en parler. Le dernier qui s'en va éteint la lumière. C'est un essai sur l'extinction de l'humanité que je nous engage en tout cas à prendre très au sérieux. C'est publié chez Fayard.
Retrouvez Face à l'info tous les jours de la semaine de 18h30 à 19h.